Chapitre 3. Une bonne fortune. À 22 ans, Raymond Eudeline, joli garçon, soigneux de sa tenue comme tous nos jeunes d'aujourd'hui, en était à attendre sa première bonne fortune. On ne pouvait guère, en effet, donner ce nom à ses relations avec Geneviève, si piteusement terminées, pas plus qu'à ses passades éphémères chez quelques demoiselles du quartier. Mais le rendez-vous avec Madame Valfond, c'était le commencement de la vie mondaine, l'aurore d'une carrière de séduction. Reçu depuis des mois chez cette ancienne jolie femme, que ses 20 ans et ses boucles dorées avaient tout de suite éblouie, Raymond eût été depuis longtemps maître de la place, sans l'absurde timidité de son âge. À quoi tient-elle, cette timidité d'un être jeune, intelligent et beau, en présence de la femme ? Cette gêne invincible du geste et de la parole qui peut aller jusqu'à la grossièreté et à laquelle la femme ne veut jamais assez croire. Névrose avant tout, névrose aux causes multiples et complexes, dont la plus ordinaire est encore le manque d'argent, plutôt l'inhabitude de l'argent. Que de fois, s'il s'était senti mieux en fond, s'il avait eu dans un coin de Paris l'appartement luxueux où recevoir une maîtresse, Raymond aurait montré plus d'audace. Que de fois il eût saisi l'occasion passagère, au lieu de se dérober, de fermer les yeux pour ne pas voir. Cette fois, il avait dû céder devant le formel rendez-vous fixé par Madame Valfond. « À 3 heures précises, à la porte de Saint-Gervais et Protée, je serai libre jusqu'au dîner. » Et tout de suite, cette inquiétude, ce désolant souci, où la conduire? Il songeait d'abord à la chambre d'Antonin, place royale. Mais les corridors carrelés en étaient si vieux, le mobilier si modeste, et puis la brodeuse de chasuble, quel voisinage pour une femme de ministre. Il se souvenait alors d'un hôtel meublé du même quartier, tenu par une ancienne chanteuse de théâtre lyrique qui vivait dans ce temps-là avec un de ses locataires, élève de l'école centrale et ami d'Antonin. Plusieurs fois, il était arrivé à ce jeune homme d'inviter les frères Eudeline à dîner avec sa maîtresse, et Raymond avait gardé de l'hôtel et du service une impression d'autant plus favorable que la maison possédait 2 entrées, boulevard Beaumarchais et rue Amelot. Et de l'argent ! Ce fut le second cri de son angoisse. Pour la soirée des affaires étrangères, le costume, chaussures, gants, voiture, il avait retourné les tiroirs de la maman et le porte-monnaie du frère. De ce côté, plus de ressources. Il cherchait, agitant son insomnie dans le petit lit de fer de sa soupente, le lendemain de la fête au Quai d'Orsay, quand le nom d'Alexis, l'ancien comptable de son père, qu'il avait fait entrer comme caissier à l'association des étudiants, lui traversa subitement l'esprit. L'horloge du palais Mazarin, qui réglait toutes les habitudes du quartier, y compris le magasin de la lampe merveilleuse, sonna 10 heures. Il s'habilla vite, sûr maintenant de trouver les quelques louis nécessaires. Au numéro 41 de la rue des Écoles, dans un de ces vastes immeubles à 2 corps, tous bâtis sur un même modèle, où le simili-marbre joue le rôle luxueux, l'Association des étudiants de Paris occupe les 5 étages du fond de la cour. Elle a eu soin d'abattre les cloisons de tous ces nids bourgeois, uniformément composés d'un salon crème à plafond rose, de quelques chambres à coucher, toilettes et salles de bain aux peintures criardes, aux ornements de carton-pâte, installant à leur place des bibliothèques de droit, de pharmacie, de médecine, un bureau pour le comptable, même une hydrothérapie et une salle d'armes. Depuis, l'association s'est agrandie. Mais en 1887, par l'aigre matinée où Raymond remontait le trottoir de la rue des Écoles, glissant et miroitant des blancs frimas de la nuit, l'aspect de là était bien tel que nous le donnons. Dans la pièce de l'entresol qui sert de caisse, le garçon de salle, en train d'allumer le feu, dit au jeune Eudeline, très surpris que M. Alexis ne fût pas encore arrivé, « Oh, il ne viendra pas de tout le jour, ni demain non plus, probablement. Il marie une nièce en Bourgogne. » La vie donne quelquefois à ses menus contretemps l'importance de catastrophes, et les mots qui les résument, ces catastrophes, ceux qu'au théâtre on appelle les mots de situation, tombent lourds et meurtrissants comme des pierres. Raymond en fut une minute anéanti, écoutant ronfler le feu et bourdonner la voix du garçon qui répétait sa phrase bête et sinistre. À qui le demander cet argent? Peut-être à un cher camarade, à l'un des 33 du comité? Oui, mais c'est dans ce comité que se brassait sa présidence qu'il risquait de compromettre avec cette attitude de famélique et d'emprunteur. À tout hasard, il monta dans les bibliothèques, à cette heure frileuses et désertes, leurs vitres étoilées de givre en l'absence de tout chauffage. À la pharmacie seulement, flambait un feu de coq, près duquel, un codex sur les genoux, dans les mains un énorme quignon de pain chaud, un pauvre diable d'étudiant étranger, roumain ou valaque, les joues creuses, les yeux goulus, lisait, mangeait, se chauffait voracement dans un état de béatitude. Lui demander 3 louis à celui-là? Eudeline referma la porte sans bruit et, distrait un instant de ses préoccupations égoïstes, songeait en redescendant que cette association, partant de points ridicules et ostentatoires, cette couveuse artificielle de petits députés et d'hommes d'État embryonnaires, avait des côtés de pitié, de confraternité généreuse dont elle ne se vantait pas. Avec le garçon de salle et la concierge, un petit groom ou chasseur qui n'a pas d'autre nom que le gosse et disparaît généralement après sa première paye, compose tout le service intérieur de la maison. « Vite, le gosse, cette lettre à M. Marquez aux affaires étrangères !» dit Raymond, remettant au petit domestique quelques lignes qu'il venait d'écrire sur le bureau du comptable et dont il attendit la réponse anxieusement. Depuis que les jeunes gens se connaissaient, c'est le pauvre des deux qui avait toujours prêté de l'argent à l'autre, à cet égoïste de Marquez qui, dès le lycée, déclarait cyniquement « J'emprunte quand je peux, je ne prête jamais ». Aussi, grande fut la stupeur de Raymond, et plus grande encore son allégresse, quand le gosse rapporta la réponse du Quai d'Orsay. « 3 louis, mon bon, en voilà 5. Et ne me remerciez pas, car ce que j'ai à solliciter de vous est autrement précieux et rare qu'un service d'argent. Ce soir, 9 heures, je vous attends au fumoir de là. Je dois y rencontrer quelques-uns des 33 qui s'occupent comme moi de votre présidence. » Ensuite, je vous présenterai la très chère requête de mon cœur. Quelle pouvait être cette requête? Raymond n'y songea pas un instant, tout à l'ivresse inquiète de son premier rendez-vous, à l'installation de la chambre, aux instructions à donner au cocher. Un peu avant 3 heures, sa voiture stationnait devant Saint-Gervais et Protée, une ancienne église du quartier de l'Hôtel de Ville, où la mode en ce temps était d'aller entendre de la très belle musique religieuse d'Allegri et de Palestrine, exécutée par la meilleure maîtrise de Paris. Une femme du grand monde officiel comme Madame Valfond, descendant en plein jour le perron surélevé de cette lointaine paroisse, venait évidemment de s'abonner à une des auditions musicales de la prochaine Semaine Sainte, et sa présence n'y pouvait être suspecte. Il ouvrit la portière vivement. Elle monta près de lui, dit tout bas « Bonjour !» et lui prenant une main entre ses petites mains gantées de clair, la mit contre ses lèvres, sous la voilette, puis ne bougea plus. Ils restèrent ainsi longtemps, serrés l'un contre l'autre sans se parler, tandis que la voiture les emportait à l'élastique vitesse de ses roues. Bien que la plus âgée des deux, elle semblait plus émue que lui. C'était une de ces mondaines à qui le perpétuel souci de leur beauté tient lieu de vertu, comme à telle chanteuse illustre la crainte de perdre sa voix. En réalité, dans une existence de tentations et de plaisirs, où l'amour semblait prendre toute la place, la belle marquise n'avait donné son cœur qu'une fois à ce fourbe Valfond, et il y avait si longtemps qu'à cette heure, tout de la passion lui paraissait neuf, ingénu, qu'elle ne croyait pas mentir en jurant à son jeune amant qu'elle n'en avait jamais eu d'autre avant lui. Quant à Raymond, il la regardait du coin de l'œil avec une admiration curieuse, inquiète, étonnée de la voir si jeune, troublée depuis le matin par la parole de sa mère. « Mais quel âge a-t-elle donc, cette femme-là » Jamais encore il ne se l'était demandé, par cette première raison qu'un tout jeune homme, dans le monde, si amoureux soit-il, et trop préoccupé de son propre effet, du mirage dans les glaces, jamais assez grande, de sa personnalité qu'il cherche et poursuit avant qu'elle s'affirme, et trop ébloui de sa première conquête pour bien l'observer. D'ailleurs, comment fixer l'âge d'une mondaine avec toutes les ressources de toilette et d'arrangement, tous les travestissements de coiffure et de chevelure mis en œuvre? Combien peu d'hommes distinguent le vrai du factice? Combien peu s'étonne de voir des reflets vénitiens sur un teint mat de brune remplaçant cette chair nacrée Piquetée de son, cette odeur spéciale qui sont la chair et l'odeur de la femme rousse, si généralement laide en France. Et lorsque les hommes d'expérience et de maturité s'y trompent, comment les 20 ans de Raymond y auraient-ils vu clair? La voiture s'arrêta devant l'entrée de la rue Amelot, où l'attendait un garçon d'hôtel qui, par un couloir obscur, conduisit le couple jusqu'au bureau qu'un vitrage orné de plantes vertes séparait du palier de l'entresol. Une femme chantait au piano une mélodie allemande. « Le nain de Schubert, je le reconnais !» murmura Madame Valfond. « On ne le chante guère en France !» Elle parlait d'une voix assurée, mais Raymond la devinait tremblante à son bras. Et cette émotion lui causait le plaisir de se sentir plus mâle, mieux protecteur. Comme ils allaient vers leur chambre indiquée, une porte s'ouvrit, se referma brusquement avec un appel aux garçons, leur laissant voir des coupes de champagne pleines à ras-bord et un large dos à bretelles d'hommes en chemise jaune attablé. Nous avons des voisins, dit l'amoureux gaiement pour apaiser l'agitation d'un cœur haletant près du sien. Elle ne répondit pas et respira seulement lorsqu'ils furent chez eux avec 2 bons tours de clé. Une grande chambre à alcôve, confortablement meublée, rideaux et tentures boutons d'or, s'éclairant d'une fenêtre sur une cour qui servait d'office, couverte d'un vitrage à bordure étroite de zinc. Commode ce vitrage en cas de surprise, songea Raymond, gardant muette sa réflexion peu héroïque. Dans la cheminée brûlait un feu de bois. Sur le guéridon, couvert d'un apron à broderie, attendait un petit goûter de sandwiches et d'amontillado.
Maintenant, dis-moi tout ce que tu as souffert.
Elle s'était assise contre la cheminée dans un fauteuil très bas, le cou nu, la blouse mauve de son corsage largement dégrafé, ses cheveux en lourdes ondes à demi tombantes. Lui, à ses pieds, sur le tapis, lève vers la bien-aimée les boucles de son front, sa jolie figure toute rose d'un reflet de la flamme et d'un doigt de vin de Portugal. La veille, elle lui a conté sa vie, ce long martyr entre son mari et sa fille. Aujourd'hui, elle veut qu'il lui dise la sienne. Mais elle est bien mélancolique et piteuse, son existence d'écolier pauvre, et pour la rendre intéressante, il faut la compliquer, la romancer. Et il romance. Ces bonnes créatures, dévouées et tendres, maman Eudeline, Antonin, Dina, s'agglomèrent en un moloch aveugle et sourd qui s'appelle la famille, et auquel Raymond donne sa chair, son sang, jusqu'aux ors les plus fins de sa cervelle. Le petit magasin de la lampe merveilleuse se nie radieux, ouaté de chaleur et de douceur, et l'antre obscur, au fond duquel opère le moloch, où fume nuit et jour le sang de la victime. Pourtant, il est le premier à en convenir, de ces êtres qui le déchirent, se nourrissent de sa moelle, aucun n'est méchant. Ainsi, son frère Antonin, que Wilkie a rencontré avec lui quelquefois, et dont la déchéance morale les désole, ce frère qui n'a pu rien être qu'un ouvrier, et l'ouvrier de Paris, avec toutes ses laideurs, toutes ses tares, c'est quand même un bon enfant, un cœur d'or, comme on dit. Lui non plus, Raymond, malgré ses mensonges, n'était pas un méchant, mais un de ces êtres puérils qui vieillissent sans mûrir et ne sont que vanité, surtout devant la femme. Penchée sur lui, respirant son souffle, la flamme de ses yeux, Madame Valfond à tout instant murmure « Pauvre être, pauvre cher être !» ou bien encore lui jette haletante « Dieu, le beau livre qu'on ferait !» Mais lorsqu'arrive la partie sentimentale du roman, quand Raymond raconte comment il a sacrifié au sien l'amour de cette adorable jeune fille entrevue par Madame Valfond au parloir de Louis le Grand, dans le récit, Geneviève est devenue une jeune personne de très grande famille, le brave père Isoard un vieux marquis provençal, quelque chose comme le maréchal de la noblesse du Midi. C'est le père Isoard qui ne serait pas content de cette métamorphose. Oh, alors, devant tant de généreuses abnégations, Madame Valfond est perdue, prend dans ses mains la douce tête blonde et dit tout bas sur ses lèvres « Viens, viens, au moins que mon amour te console !» Il fait presque nuit dans la chambre, l'obscurité jaunâtre d'un jour de brouillard à Londres. Les lourds rideaux de la fenêtre, qu'un geste pudique et passionné a détaché de l'embrasse, tombent jusqu'à terre. Le bois flambe et pétille, un éclair court sur le tapis. Guidée par ses lueurs, une forme blanche, vaporeuse, s'approche du lit où l'amoureux frémissant espère, implore, les bras ouverts. Mais dehors, dans le couloir, des pas se hâtent, se précipitent. Une voix, étranglée par la terreur, souffle dans leur porte en passant.
« Madame, madame, voilà votre mari !»
Une seconde, les amants se sont regardés avec des prunelles phosphorescentes. L'ombre de l'alcôve en est tout éclairée.
« Mon mari, sauve-toi !»
murmure une voix agonisante qui ne sait même pas qu'elle parle. Presque aussitôt, la femme est à bas du lit, ramasse à tâtons ses jupes éparses et les jette dans un cabinet de toilette où elle s'enferme, pendant que Raymond, se souvenant de la toiture en zinc, s'élance vers la fenêtre. Il est prêt à ouvrir quand un cri de femme, répondant au fracas d'une porte qu'on enfonce à côté, arrête son geste et son élan. Évidemment, ce n'est pas eux qu'on a voulu prévenir, ce n'est pas chez eux que le drame se passe. Mais les chambres si voisines, cette conformité de situation, c'est terrible. Le cœur serré, il suit derrière la muraille une bousculade de meubles, puis une lutte atroce. Pas un mot, rien que des souffles, et le dernier, le plus long, le plus profond, s'accompagnant de la chute mate et lourde d'un corps qui s'abandonne, et, selon la parole de Dante, tombe comme un corps mort tombe. En même temps, une fenêtre s'ouvre toute proche, un homme l'enjambe, passe sur le vitrage dont il suit l'étroite bordure, face à la maison, ses deux mains cramponnées aux gouttières, aux corniches. L'amant qui se sauve sans doute et tâche d'atteindre l'autre escalier. Mais pourquoi, quand cet homme passe devant lui, la tête presque au niveau de ses yeux, Raymond a-t-il la sensation d'un visage connu ? Où l'a-t-il déjà rencontré, ce regard d'un bleu dur, d'un bleu fanatique, séparé de lui seulement par l'épaisseur d'une vitre, et dont l'ironie semble l'interroger, le reconnaître au passage, lui aussi. Il n'a pas eu le temps d'un souvenir que le vitrage est désert, la vision disparue, mais laissant derrière elle un drame sinistre qui dure. Derrière les cloisons, on traîne quelque chose de lourd. Une voix commande. « Sur le lit, portez-le sur le lit !» Le bois, le sommier, craque sous un poids énorme. Du fond du couloir, parmi de nombreux piétinements, s'avancent des pas solennels, d'autres rapides, annoncés par des chuchotements.
« Commissaire, médecin des morts !»
Et pendant que Raymond guette tous ces bruits, l'oreille à la muraille, les reins inondés d'une sueur froide, cette chambre entrevue en passant tout à l'heure, il se la figure à présent agrandie de silence et d'horreur, un crucifix et deux flambeaux allumés, occupant au chevet du lit le guéridon où luisaient les coupes de champagne, et dans toute la largeur des draps, l'homme aux bretelles, à la chemise safran, étendu, les bras jetés, la gorge ouverte et saignante.
Quelle épouvante !
Sur ce mot murmuré tout près de lui, Raymond se retourne. Madame Valfond est là, écoutant aussi.
Il y a un mort à côté ! Vous avez entendu ?
Dit-elle, la face altérée. Et tant que dure le moindre bruit dans la chambre voisine, meuble heurté, pas assourdi, il n'échange plus ni un mot, ni un sourire. Mais tout s'est tu peu à peu. Derrière la cloison, le silence de la mort s'élargit en vagues froides et mystérieuses. Le corridor même semble désert. Dans leur propre chambre que l'ombre envahit, la glace seule garde encore un peu de jour. Machinalement, Madame Valfond s'en approche pour arranger ses cheveux. Ce geste de femme, d'une courbe si familièrement élégante, rappelle l'amoureuse à son rôle. Il tend les bras, veut l'étreindre, mais elle se dérobe et, suppliante,
« Non, non, pas aujourd'hui, pas ici, j'ai eu trop peur !»
Et lui-même, toute force abat, transi jusqu'au fond de l'âme, n'est pas fâché de fuir le malencontreux hôtel. Ce soir-là, au fumoir de l'association où Raymond devait le rejoindre, Wilkie Marquez avait donné rendez-vous aux membres du comité et bien avant 9 heures, s'était mise à chauffer la candidature de son ami. Le fumoir, à cette époque, occupait au second étage de la rue des Écoles une petite pièce tendue de toile écrue à bordure d'andridople rouge sur laquelle s'estassaient, en des cadres de bois noir, quelques lithographies à sujet romantique offertes par la direction des Beaux-Arts. Des sièges boiteux, défoncés, se dépareillaient le long des murs. Sur la cheminée, un bocal d'esprit de vin où marinait un morceau de peau du levantin Pranzini, servait de pendant au buste de Chevreul, déshonoré par le frottement des allumettes sur le nez du premier étudiant de France. Heureusement pour lui, la jeunesse des écoles perd depuis quelque temps le goût du tabac et le fumoir était surtout un endroit de libre discussion, très animé au moment de l'élection présidentielle, ordinairement au mois de janvier. Mais cette année, à la suite de querelles intestines entre la présidence et la terrible COI, Commission d'ordre intérieur, la brusque démission du présent titulaire avait avancé les élections de plusieurs mois. Marquès, ancien président de l'association, par sa position de secrétaire particulier aux affaires étrangères, sa parenté avec le ministre, était le personnage important de la maison, celui que toute cette jeunesse enviait, dont elle courtisait et imitait la blague froide, le rire de pendu et la démarche solennelle, sans s'apercevoir que lui-même n'était qu'un pâle décalque de son patron. Les mains derrière le dos, marchant de ce pas tranquille des tout petits hommes qui veulent se donner de la gravité, à le voir arpenter l'étroite pièce, jeter ses phrases brèves et perfides, on aurait dit Valfond petonnant à la tribune un de ses discours ministres pince sans rire, qui semblent un long monologue d'Arnal. Ce qu'il avait pris à tâche ce soir-là, c'était moins l'éloge de son candidat que la dépréciation de ses deux concurrents, surtout du président démissionnaire qu'une partie du comité voulait renommer. De sa petite voix sèche, Marquès démontrait aux chers camarades combien ils avaient tort de regretter ce monsieur qu'on pouvait juger par ses 3 mois de présidence et qui, malgré ses discours prétentieux, son jargon philosophique sur l'âme moderne, la régénération intellectuelle, n'était là que pour se faire des relations, dîner à l'Élysée, gagner les palmes et une bonne place. Et sa manière d'administrer les fonds, le désordre, le coulage. Ici, des approbations surgirent de tous les coins du fumoir. On précisait, on criait des chiffres. 150 francs de balais et plumeaux dans le trimestre. Quelqu'un fit observer aussi que c'était le 3e président sorti de la section des lettres et que la section de droit, dont Raymond Godeline faisait partie, réclamait son tour. Quant à l'autre adversaire, Marquès en eut vite raison. Bibliothécaire du comité, connu de tous, la façon dont il gérait ses bibliothèques donnait un avant-goût de ce que serait sa présidence. Du midi, du sous-midi, familier, tutoyeur et noceur, cherchant les popularités faciles, on se le figurait volontiers prenant l'apéritif avec le garçon de bureau. Sans pareil pour donner l'accolade dans une gare aux chers camarades belges ou suédois, entonner la Marseillaise, brandir la bannière, il manquait de tenue malheureusement et serait d'un effet désastreux au dîner de l'Élysée, même en bout de table. Amusant si vous voulez, mais rien de sérieux. Et qu'il les connaissait bien, Marquès, tous ces petits hommes dont les larges bérets de soie moirée, récemment adoptés par les étudiants de Paris, affectaient une forme correcte et majestueuse comme leurs redingotes noires et leurs énormes cravates à la royer collard. Qu'ils savaient comment leur parler pour tuer la confiance, l'admiration dans leur esprit. Un président qui ne serait pas sérieux. Pour se figurer le mépris où il le tiendrait, il n'y avait qu'à regarder, sous le gaz, l'expression de leurs têtes gamines et doctorales, rayées, craquelées de rides précoces, des coups d'ongles de l'expérience et de l'intrigue. Il fallait les voir plisser leur front en se communiquant les rapports dont les avait chargés la commission, la sous-commission, la contre-commission. Et plus ils étaient jeunes, plus ils s'enveloppaient de majesté, voûtaient leur taille débile sous le poids des responsabilités écrasantes dont la terrible COI pouvait à tout moment leur demander compte. Ah, Chamontin n'était pas sérieux. Sur ce cri d'indignation de toute l'assemblée, Raymond fit son entrée et comprit à la chaleur de l'accueil les chances de son élection. Les mains s'empressaient vers lui. Pas un cher camarade qui se tint à l'écart. Jusqu'au buste de Chevreul, dont le sourire s'enjolivait, dont le nez semblait blanchir en son honneur. Eh bien, le bel Oswald, on est content? Était-ce une vraie bonne fortune? Wilkie ne continua pas sur ce ton léger. Sans s'expliquer la gêne, le trouble du bel Oswald. « Excusez-moi, lui dit-il, j'ai l'air bête, mais c'est un air que j'aime apprendre dans les sociétés. Au fond, mon esprit est occupé de choses autrement sérieuses. » Et l'étreignant par les épaules, avec une tendresse qui ne lui était pas habituelle, « Sortons, voulez-vous ? Je me sens mal à l'aise dans ce parlement de Lilliput. » Il continua, pendant qu'il descendait côte à côte la rue des Écoles, « Rien ne vaut la présence réelle à la condition de n'en pas abuser. Après tout ce qu'ils viennent d'entendre, ils vous ont vu, laissons-les sur cette bonne impression. Pour moi, votre cause est gagnée, vous serez président de là dans 15 jours, surtout si vous avez soin de déposer votre carte chez tous les membres du comité. Cela ne s'est jamais fait, mais c'est très institu et ces quelques visites couperont court aux dernières hésitations. Bien entendu, vous ne les monterez pas, vous pourriez les gêner. La plupart de ces jeunes gens habitent en famille dans des conditions assez précaires. Telles que nous voyons à l'association faire la roue, parler de son tailleur de Londres et de ses tuyaux chez les grands entraîneurs, rougir et d'être surpris mangeant les légumes du pot, à la table de papa et maman, à un 5e étage ou piochant son codex dans une chambre de domestique. Une chambre comme la mienne, dit Raymond, honteux tout à coup que Marquès fût entré chez lui une fois. « Oh, la vôtre, mon cher, c'est le paradis, ou du moins son tout voisinage. » Wilkie s'arrêta et s'appuyant au bras de son ami, comme oppressé par l'aveu qu'il préparait. « Ma foi, tant pis, il fait noir. Si je rougis, on ne me verra pas, et je préfère m'expliquer tout de suite que de continuer mes propos incohérents. J'aime votre sœur, mon cher Raymond, et je l'aime du premier jour où nous l'avons rencontrée, vous rappelez-vous, revenant de son bureau, en petite toque de loutre, sa serviette sous le bras. C'est ainsi qu'elle m'est entrée dans les yeux, dans le cœur, et pour n'en plus sortir. J'ai pourtant bien essayé de m'arracher à cette obsession qui pouvait devenir une gêne, un empêchement dans ma vie. Mais l'autre nuit, la nuit du menuet, devant l'enthousiasme soulevé par la grâce de cet enfant, j'ai eu peur qu'on me l'apprît et je me suis juré de vous en parler. » Le temps que Raymond, très ému, prit avant de répondre, parut interminable à Wilkie. Il craignait un engagement entre Dinah et Claudius, mais il fut rassuré tout de suite. « Vous savez, mon cher Wilkie, que ma sœur n'a pas de fortune. »« Ni moi non plus, avoua l'autre en riant. Aussi, mon projet ne sera-t-il réalisable que dans 8-10 mois peut-être. Valfond m'aura casé à la Cour des comptes ou au Conseil d'État, à moins que je n'aie pris la direction du grand journal dont Claudius Jacquin, mon futur beau-frère, doit me faire les fonds. Vous savez, son père est très riche. Lui-même a une fortune personnelle considérable où je pourrais puiser pour n'importe quelle de mes entreprises. Je puis donc vous affirmer, mon cher, que votre sœur, si elle veut de moi pour mari, ne sera pas dans la misère et que je suis bien décidé à prendre ma part de la lourde charge que vous portez avec tant de courage et depuis si longtemps. Maintenant, croyez-vous qu'en demandant la main de mademoiselle Dinah si longtemps d'avance, j'ai quelque chance de l'obtenir, car je compte me présenter chez vous avec ma mère, et cela le plus tôt possible, pour être sûr qu'on ne me volera pas mon bonheur. » Les deux amis tournaient le coin de la rue de Seine, et en regardant flamboyer au loin dans la nuit la devanture de la lampe merveilleuse, Raymond se rappelait le mot de Dinah, qu'avec cette enseigne des 1001 nuits, on devait s'attendre à tous les miracles. N'était-ce pas miraculeux, effectivement, ce qui arrivait à cette petite fille et à eux tous par contre-coup? Ah, s'il ne s'était pas retenu, comme il aurait mis Wilkie contre sa poitrine! De quel transport de gratitude et de joie il eût accueilli sa demande! Mais il hésitait, par une précaution vaniteuse, sachant que, dans quelques jours, il aurait un joli appartement où il pourrait recevoir Wilkie et sa mère, plus confortablement que dans cette boutique ouverte à tous. Et au grand étonnement de Marquès, qui espérait mieux sans en laisser rien voir, il promit avec calme de transmettre la demande à sa mère et de répondre aussitôt. La bise sifflait, mordait les rares passants du quai désert et noir, ce quai au nord que nos jeunes gens descendaient dans la direction des Invalides. Leur pas de causerie, tranquille et coupé de halte, avait fini par les transir. L'un d'eux proposa d'entrer se réchauffer quelques minutes au café d'Orsay encore ouvert, et à peine assis, la conversation de la table voisine, où quelques officiers de dragons faisaient cercle autour d'un vieux colonel, attira leur attention. « Je l'ai connu en Crimée, ce général de Jarine, alors lieutenant de cavalerie comme moi, comme moi, officier d'ordonnance d'un chef de corps, et à deux différents armistices, nous avons bu à nos maîtresses le mauvais champagne des cantines. Il me fit l'effet d'un garçon très ardent, très passionné, de ces hommes qui, mourant à n'importe quel âge, sont sûrs de finir dans la peau d'un jeune premier. Un des officiers que Wilkie connaissait pour avoir déjeuné quelquefois à son côté dans ce même café, se trouvant plus rapproché, poussa devant lui en explication une feuille du soir qui traînait sur le marbre de la table et dans laquelle était relatée la mort du général de Jarine, ancien préfet de police de Pétersbourg, assassiné le jour même en flagrant délit d'adultère par un mari de l'école de Dumas. « Où cela s'est-il passé? Sait-on ? » demandait Raymond, tout à coup très inquiet. Wilkie, à son tour, lui passait le journal. « Voyez, dans un hôtel meublé, tout près de la Bastille. » Lui-même continuait le colloque avec les officiers. Une des dernières fois qu'il est venu aux affaires étrangères, ce pauvre général, il a passé plus d'une heure dans mon cabinet à me raconter son aventure, celle dont il est mort probablement. Une grande belle fille, essayeuse dans un magasin de la rue de la Paix, et qui prenait Bastille et Madeleine tous les matins. Le mari, dessinateur au Marais, chez un marchand de bronze, mettant sa femme à l'omnibus. Et, à mi-route, le général Montand venant s'asseoir à côté de la belle qui l'accompagnait jusqu'à son magasin. 3 semaines de ce manège à stationner tous les matins devant un bureau d'omnibus, avec la température que nous avons, jusqu'au jour où il est venu nous annoncer au ministère qu'il tenait enfin le rendez-vous tant désiré. Il était dans un tel état d'exaltation, je n'ai pu m'empêcher de lui dire « Prenez garde, mon général !» Mais je redoutais moins pour lui, je l'avoue, une vendetta maritale qu'un coup de sang, une hémiplégie, avec cette encolure engorgée, cette face de congestion. Les officiers, leur colonel, s'étaient levés, rapprochés de Wilkie qu'ils écoutaient debout, pendant que Raymond songeait, la tête dans son journal. Que ce drame dont ils parlaient tous fût son drame, et de Jarine, le gros homme qu'on avait tué tout près de lui, ils n'en doutaient pas. Mais l'autre, le fuyard du toit de zinc, qui était-ce? Sans doute le mari. Alors pourquoi se cacher quand on a pour soi la loi et les gendarmes? Et puis, ce visage déjà vu, ce regard ironique et complice, dans quel recoin de sa mémoire les retrouvait-il au passé? Comme en réponse à sa question muette, une voix s'éleva du groupe à côté. « Ce qui me frappe, messieurs, et dont ne se préoccupe guère le journal, c'est qu'on n'ait plus entendu parler du mari, de l'assassin. En face d'une personnalité comme celle du général, ancien ministre de la police dans son pays, tout est supposable. Et cette disparition me semble mystérieuse. Comment ce commissaire, appelé pour les constatations, n'a-t-il pas fermé l'hôtel à l'instant même et interroger toutes les personnes qui s'y trouvaient? » Raymond se sentit pâle d'une terreur rétrospective et s'enfonça plus profondément dans son journal. Il se voyait là-bas, dans ce quartier lointain, obligé de donner son nom et celui de la femme qui l'accompagnait. Une femme de ministre exposée à cette détresse, livrée à la discrétion d'un bas policier. Toute l'épouvante de ceux qu'il avait vus disparaissait devant ceux qui auraient pu être. Non, jamais plus se risquer dans une telle aventure, et tant qu'il n'aurait pas une chambre à lui, un appartement pour lui seul, ne jamais recommencer d'aussi périlleuses bonnes fortunes.